Hello, bienvenue à tous, je suis Laetitia Fall et vous écoutez Vendu, le podcast pour booster ses ventes. Si tu ne me connais pas, j'ai cofondé une startup dans la HR Tech de 01. J'ai géré et structuré tout le développement commercial jusqu'à revendre la boîte au groupe Hello Work, un des leaders du recrutement. Depuis, j'aide les entreprises B2B à performer. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau Sales Talk, ça rappelle le principe, je discute avec une personnalité de la vente de mon réseau pour t'aider à dépasser tes objectifs et à rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. Dernièrement, j'ai eu une super conversation avec Jules Gardère, Head of Sales et associé de Scalesia. On creuse le sujet de la transition de premier commercial à Head of Sales après avoir trouvé son product market fit. On aborde tout, structuration, recrutement, intégration, incentive, l'alignement avec les autres équipes et surtout, comment faire exploser la croissance de son entreprise. C'est une discussion qui est bourrée de conseils pour booster ton business, c'est ta dose de culture sales. Bonne écoute. Hello Jules, ça va?
Ça va et toi Laetitia, en forme?
Ouais, ça va la forme. Écoute, très contente de te recevoir dans ce podcast. Je t'ai connue parce que j'ai intégré dernièrement le groupe d'experts en fait, de chez Scalesia. J'accompagne en fait certains de vos clients sur la partie sales. Donc, on a eu l'occasion du coup de s'approcher, de discuter. Et j'avais envie de t'inviter pour qu'on puisse parler de comment on fait pour passer du premier sales quand on n'a pas de client à head of sales d'une boîte et surtout à faire... à scale, le modèle économique d'une boîte. Je pense que c'est une problématique que pas mal de boîtes qui ont fini leur go-to-market ont. Ouais. Du coup, je vais te laisser te présenter et ensuite, je vais te poser pas mal de questions.
Bon, eh ben, super. Jules, Head of Sales et associé chez Scalesia. Moi, je m'occupe de toute la partie Make Money aujourd'hui chez Scalesia, donc... avant que ce soit effectivement, avant qu'on revienne un petit peu sur tout l'historique. Aujourd'hui, la partie Head of Sales et Make Money, ça va être trois gros pôles. Le premier qui est closing, comment on va closer les deals, comment on va faire en sorte d'avoir des tickets de plus en plus haut et ainsi de suite, faire vraiment du chiffre d'affaires. La deuxième partie qui va être la partie SDR, setting, comment on fait en sorte d'avoir plus de rendez-vous pour closer davantage. Et la troisième partie qu'on est en train de développer, c'est la partie account management. Une fois qu'on a des gens maintenant qui sont chez nous, maintenant comment on fait en sorte qu'ils restent chez nous et surtout qu'ils continuent à travailler avec nous derrière sur de nouveaux produits et assurer cette continuité-là. Voilà un petit peu sur mon rôle actuel. Est-ce que tu veux que je te parle de mon parcours
carrément. Bah oui. Comment on fait pour devenir, pour devenir justement Head of Sales? T'as fait quoi derrière avant?
Ouais, bah alors, je ne sais pas si c'est le bon parcours, mais en tout cas, c'est le bien. Moi, je viens de la vente d'alcool au départ, donc vraiment rien à voir. Au tout départ, donc vraiment sur du local, de la bière artisanale, du vin et ainsi de suite. C'était un milieu qui m'intéressait. Et en fait, après avoir fait cette vente d'alcool, donc qui n'a rien à voir avec l'écosystème startup, rien à voir avec la tech, rien à voir avec le business et ainsi de suite, bien que c'était quand même ma passion en fait en parallèle, je suis arrivé avec pas mal de responsabilités sur un deuxième poste qui était directeur commercial pour une boîte dans le mobilier et le design, cette fois en Made in France. Donc en fait, l'idée, c'était de garder cette échelle un peu à taille humaine qui m'a toujours beaucoup plus parlé que les grands groupes. Et de pouvoir dérouler sur une autre activité. C'est une boîte qui tournait en e-commerce déjà, qui faisait 100 millions de chiffres d'affaires, sauf que la partie B2B était un petit peu de côté. Et donc, je suis arrivé au tout début pour pouvoir aller développer toute cette partie-là. Ça a duré un an. Puis après, j'ai rejoint l'aventure Scalesia au tout début. Ma boîte avait peut-être 4-5 mois. Il y avait Christian, Benoît, du coup, mes associés aujourd'hui, quelques personnes ne sont même plus là aujourd'hui. Et voilà un petit peu comment j'en suis arrivé là. J'étais moi-même un premier client de Scalesia en individuel au départ.
Tu peux juste, parce que je pense que tu as expliqué un peu en quelques minutes Scalesia, du coup, c'est quoi votre offre? Comme ça permettra aux gens de mieux comprendre.
Bien sûr. Scalesia, on accompagne des entreprises à se développer dans leur croissance. On n'est pas une agence de marketing comme on pourrait le croire. C'est-à-dire que déjà, on ne fait pas de l'exécution pour nos clients. Ça va être la première particularité qu'on va avoir. L'objectif, c'est de pouvoir internaliser les compétences dans les entreprises. On va plus se positionner en copilote que quelqu'un à qui tu vas externaliser. L'objectif, c'est surtout pas de mettre les gens sous perfusion en mode on vous génère des leads. On était une agence d'acquisition avant. Et il y avait en fait cette friction, tu vois, à la fin des accompagnements, tu fais des résultats, mais en fait, à la fin des 6 mois, qu'est-ce qui reste réellement au sein de la boîte? Qu'est-ce que tu laisses, si ce n'est les résultats que tu as générés? Pas grand-chose. Et aujourd'hui, ben, si tu veux faire de la croissance, tu es obligé d'internaliser à un moment. Parce que l'objectif d'une boîte, c'est de faire de la croissance. Si tu externalises ton objectif principal, ben, tu
Yes.
as une perte de contrôle complète en fait, là-dessus. Donc ça va être la première particularité de Scalidia, vraiment ce côté internalisation et copilote. Et la deuxième particularité de Scalidia, ça va être l'approche 360 qu'on va avoir de la croissance. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire, la croissance, ce n'est pas uniquement du marketing, ce n'est pas uniquement avoir le bon produit, le bon sales ou autre. C'est des mécaniques qui sont bien plus complexes. Donc tu dois aller créer des synergies. Tu dois ben, faire en sorte en fait que tout, on parle beaucoup d'alignement, market sales, sales product, etc. etc. Ben, l'objectif, c'est de mettre tout ce beau monde dans la bonne direction et en ayant décortiqué des centaines, voire ouais, peut-être même des milliers maintenant, à force d'avoir des appels de business, on a créé une méthodologie de croissance qui est propre à nous et qu'aujourd'hui on applique chez nos clients.
Stylé. Du coup, en fait, pour que ce
Voilà.
soit plus simple pour les auditeurs de
Ouais.
comprendre un petit peu justement cette croissance et d'où, en gros, toi, comment t'as réussi de passer globalement la boîte de 0 à, c'est toi qui diras si tu veux dire le chiffre d'affaires, je te laisserai le dire. Du
Ouais.
coup, justement, tu as commencé en fait à faire le go-to-market. Comment tu t'y es pris? Quelles sont les premières choses que tu as mises en place quand tu es arrivé pour faire en sorte d'aller chercher les premiers clients?
Bah, je vais casser le suspense direct, donc de zéro pour le moment à entre 200 et 250 000 par mois
Ok.
de chiffre d'affaires. L'idée, c'est d'arriver là dans les 2 ans à 1 million d'euros par mois, donc ce qui nous ferait ouais, une croissance à 12 millions annuels. Ce qui serait intéressant, en tout cas une première étape de croissance, ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là, mais sur du service, c'est plutôt cool. On a passé le million la première année pour la petite anecdote, donc c'est allé très très vite. Et dans la manière donc, dont on a fonctionné, on a eu un gros avantage, c'est qu'on est arrivé un peu à l'Eldorado de LinkedIn, où ben, tu pouvais, il y a 2, 3 ans, faire des reach de fou. Il n'y avait pas grand monde sur LinkedIn, si ce n'était quelques têtes de proue et quelques recruteurs peut-être, et 3 étudiants qui postaient un peu les CV, tu vois. Mais voilà, en gros, l'idée. Donc, tu avais un algorithme qui était ultra favorable à l'époque. Du coup, on a eu de la chance de beaucoup tourner en fait à l'organique. C'est-à-dire que l'acquisition n'a pas été un problème dès le départ, alors que c'est souvent une problématique pour les personnes. Donc, ce n'est pas forcément ce que je vais aller recommander, moi, aux personnes qu'on va aller accompagner. Si aujourd'hui, tu as un produit, l'idée, c'est de se confronter le plus rapidement au marché possible. Donc là, outbound, tu prends ton téléphone, tu te décroches et mailing. Vraiment, en tout cas, sur une partie B2B. Et LinkedIn, bien évidemment, si tu veux aller contacter en direct. Donc, ben, à force de posts, en fait, de visibilité, il y a des gens qui venaient nous voir, qui disaient, ben, c'est cool ce que vous faites, mais qu'est-ce que vous faites? Parce que ça aussi, c'est la problématique. Quand tu as un nouveau modèle, ben forcément, tu ouvres la voie à plein d'autres choses derrière. Par contre, ben, tu es le premier à évangéliser aussi ce modèle-là. Et il y a toujours une problématique de compréhension. Mais ça a été le premier sujet, vraiment. Ça a été de se positionner sur un marché en fait, de l'agence qui existe depuis X années, surtout qui est très bien implanté, et où les gens, ben, quand ils viennent te voir au début, ben, OK, vous êtes une agence, moi je veux externaliser. En fait, tu dois faire déjà le premier chiffre sur OK, externaliser c'est bien dans certaines conditions, par contre, nous, c'est pas ce qu'on fait. Donc, déjà, c'est faire shifter un peu l'état d'esprit des personnes par rapport à ça. Et ouais, sur la partie scale, ben, être au maximum sur le terrain, prendre un maximum d'appels, échanger avec un maximum de personnes pour évangéliser le modèle, pour comprendre aussi ce que les gens vont rechercher, pour pouvoir adapter ton discours et adapter tes verbatims. Tu sais,
Ok.
on parle souvent du côté positionnement. En fait, le positionnement, c'est pas toi qui te positionnes, c'est les gens qui te positionnent. C'est pas le positionnement, c'est pas toi qui le définis, c'est comment les gens te positionnent par rapport à un marché. Et souvent, en fait, on voit cette confusion-là, où il y a une confusion entre différenciation et positionnement. Ta différenciation, tu peux la choisir. Et après, ton positionnement, c'est ce qui va être défini par les gens, tu vois.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. J'aime bien. Et justement, en fait, quand tu as commencé au départ, effectivement, tu es arrivé sur un marché qui était déjà existant. Et donc, vous avez décidé de vous différencier avec justement cette logique de dire, voilà, on fait avec vous, mais on ne fait pas pour vous. Du coup, au départ, est-ce que tu as fait face à des frictions? Comment, du coup, tu les as détournées, justement, ces frictions pour essayer de convaincre? Et combien de temps ça a mis, justement, pour faire en sorte que bah, ton discours il soit fluide et qu'en fait, justement, tu as réussi à prendre assez du feedback de tes clients quand tu t'es confronté au marché pour pouvoir du coup construire le discours. Ça s'est passé en combien de temps et comment tu y es pris?
Ouais, mais déjà la première chose, c'est qu'au départ, tu te fais des idées, tu as des hypothèses avec qui tu veux travailler et en fait, tu te rends compte que tu es obligé d'aller taper large parce que même toi, quand tu fais du service, en fait, tu sais pas avec qui ça va fonctionner exactement et comment ça va fonctionner. Donc en fait, au départ, on était très, très large, tu vois, on avait une offre d'accompagnement, on avait une offre de bootcamp pour des indépendants, on avait des pricing qui étaient plus ou moins bas, du coaching, enfin, c'est assez compliqué d'aller trouver sa rentabilité au départ dans du service. Comment je me suis imprégné de ces retours? Tout simplement avec les appels et avec derrière les suivis en fait des différents clients. C'est-à-dire qu'est-ce qui a fonctionné, pourquoi, comment, et derrière, tu es capable de faire un peu un persona et un ICP, tu vois, rétroactif. C'est-à-dire que c'est vraiment un jeu de nombres. Plus tu vas avoir d'appels, plus tu vas avoir d'échanges, plus tu vas avoir d'historique et plus tu vas pouvoir comprendre ce qui a fonctionné et pourquoi ça a fonctionné. Donc ça a été vraiment un gros bloc à faire. Et comment on a fait pour évangéliser justement dans ta question ce nouveau marché, le média. En fait, on a pris le parti pris de se dire, au début, on s'en fout de vendre un maximum, on s'en fout de tout casser maintenant, on s'en fout de faire de l'acquisition de mail ou quoi que ce soit. La seule métrique qu'on regardait, c'est le niveau de valeur qu'on allait apporter au marché. En mode, les gens sont contents, ils nous voient en expert, ils nous voient comme des référents dans la croissance, c'est top. Et en fait, c'est ce shift un peu entre lead generation et demand generation, on en entend beaucoup parler. Lead gen avant, c'était captation de mails à fond et ainsi de suite. Et demand generation, c'est tu viens éduquer ton marché au fur et à mesure via une stratégie de médias, newsletter, podcast, LinkedIn et ainsi de suite. Et les gens viendront en fait quand ils seront prêts, tu vois, et quand ils seront prêts à entendre ce que tu as à leur dire et ainsi de suite. Et c'est vraiment cette manière-là dont on a travaillé. Donc ça a été un travail d'alignement aussi, sales market, le plus tôt possible pour que le discours qu'on avait sur les réseaux sociaux puisse nourrir en fait la qualité des leads qu'on allait avoir en entretien découverte.
Ah,
Ça a mis
yes.
du temps et ça continue. Et de toute manière, je pense que cet alignement-là, tu es
Toujours le
obligé de le
faire.
garder.
OK.
Ouais.
Mais du coup, en fait, dès le départ, vous aviez quand même une bonne entente sales marketing, vous aviez une stratégie un peu commune, où en fait, toi, tu as un peu un profil globalement un peu hybride, parce que aussi, tu communiques aussi beaucoup sur LinkedIn et sur les réseaux. Donc voilà, une stratégie de médias pour faire en sorte d'évangéliser les gens. En même temps, toi, aussi une logique proactive, donc de prendre ton téléphone, de faire du cold call pour avoir un max d'appels et aussi également, du coup, apprendre des besoins des clients et de voir en fait comment tu peux te positionner différemment que les autres. Oh, très, très cool. Du coup, à quel moment tu t'es dit, OK, là c'est bon, on a trouvé, ça a pris combien de temps globalement de se dire, c'est bon, on a trouvé notre positionnement, on sait que ça plaît, on sait qui est notre persona et c'est bon, on déroule quoi.
Le positionnement, franchement, on a mis bien un an et demi, et tu vois encore en fait les bienfaits du média parce que tu as un flux continu, tu vois. C'est pas un stock fini de leads ou une audience. Donc en fait, à chaque fois que tu as quelqu'un qui arrive, tu as un degré de maturité qui est plus ou moins élevé. Donc en fait, ce travail-là, il est continu, tu vois, de faire monter en fait ce degré de maturité sur les personnes et l'évangélisation du marché. Donc ça, c'est un premier point. Derrière, comment on a trouvé les personas, en combien de temps on a trouvé les personas et ce positionnement?
Parce
Ben
qu'aujourd'hui,
en
vous ne
fait,
faites
ça a
plus les
plutôt
freelances.
été.
Aujourd'hui, vous ne faites plus les freelances.
Comment?
Vous faites beaucoup moins les
Ouais,
freelances.
non, on a mis de côté.
Ouais.
On a mis de côté. Après, ça, c'est aussi des sujets de rentabilité, en fait. Ça va au-delà du positionnement. Ça va avec le product market fit, en fait, tout simplement. Donc, qui va avec le positionnement, tu vois, mais positionnement qui est très marketing et product market fit, qui est plus sur la partie vraiment product et développement. Puis, on a tendance à dire que product market fit, c'est un truc qui est très binaire. En gros, tu l'as ou tu l'as pas. Dès que tu l'as, tu vas voir, la terre va trembler, ça va être super. Et en gros, tu n'auras plus rien à faire. Et ça va être génial. Sauf que ça, en fait, c'est quelque chose qui est complètement faux. Ou en tout cas, c'est une réalité peut-être pour 0,01% des boîtes, tu vois, du style des boîtes dans la Silicon Valley ou autre. Exemple, des produits comme ChatGPT. En fait, le produit suffit à lui-même. Il y a une telle effervescence autour du produit. C'est une dinguerie sans nom. Donc, en fait, oui, effectivement, tu as cette frénésie autour de ça. Tu as des productlet growth qui sont très bons, genre Notion aussi, où ils ont réussi en fait à enfoncer des portes comme ça grâce aux produits, et il y a des accélérations qui sont hyper rapides. Mais sinon, tu ne fais pas ton 0 à 1 comme ça, en fait. C'est bien plus itératif que binaire. Donc, en fait, tu vas faire 0, 0,2, 0,3, tu vois, 0,9, et tu essayes de te rapprocher du 1 qui est ton 100% de product market fit. Et en fait, le vrai, vrai, vrai travail, il n'est pas tant autour du positionnement qui, de toute manière, se fait au travers d'un contexte et qui, de toute manière, évolue en fonction de la perception que les gens vont avoir et ainsi de suite, mais il est plus autour du produit. Comment tu vas faire pour régaler les gens un maximum pour que, à un moment, tu aies justement ce fameux product market fit, validation de product market fit, pareil. On dit validation, mais en fait, c'est jamais validé. Tu es obligé de le faire évoluer. Sinon, iPhone, on aurait encore l'iPhone 1, tu vois.
Je suis d'accord.
Je sais même pas s'il existe d'ailleurs.
Je
Ça commençait au 3, je crois, non?
crois, ou 3 ou 4.
Ouais,
Ouais,
voilà.
3, je crois. Ok, en fait, très clair sur cette partie-là. Du coup, ça a pris son temps, un an et demi. Tu étais toujours tout seul, en fait, au bout d'un an et demi. C'est à quel moment tu as commencé à recruter?
Non, du tout. En fait, moi, quand je suis arrivé, on était deux. Très rapidement, on a été trois. On est resté à trois pendant un moment où là, vraiment, franchement, on tentait tout. Toutes les semaines, je crois qu'on tentait un pitch, un support différent, un truc, machin. Jusqu'à un moment où je me suis dit, OK, on va tenter un truc. Ça va être un espèce de pitch co-créatif. Je vais partager mon écran, je vais faire un mind map et je vais dérouler la strat en live. Tu vois, genre, je voulais un truc un peu. C'était le cabaret, quoi. T'arrivais, genre show must go on, en gros. J'ai juste fait ma découverte et ça va se créer, en fait, et mon pitch, il va se créer au fur et à mesure. Et à partir de là, on s'est dit, tiens, on a craqué un truc qui est pas mal, qui est, il y a une expérience de fou avant au niveau du market. Les gens ont full valeur. Et en fait, il faut qu'ils arrivent et il faut qu'il y ait une continuité au niveau de la partie sales. Et il faut que, pareil, ce soit en mode full valeur, tu vois. Et du coup, on a travaillé là-dessus, on a travaillé là-dessus. Et au bout d'un moment, on s'est à nouveau retrouvé à deux, parce qu'avant moi, il y avait un autre associé, en fait, qui s'occupait aussi de la partie sales, et qui est parti en 2022. Et là, le gros, en mars 2022. Et là, le gros, gros challenge est arrivé, parce que on s'est retrouvé à deux, en période de scale, avec des charges qui augmentent. Il faut reconstruire une équipe commerciale, il faut reconstruire une stratégie, il faut recruter et il faut continuer à faire rentrer du cash parce que tu as des charges qui augmentent. Et là, ça a été le vrai, vrai, vrai enjeu. Heureusement qu'on avait eu toute cette période itérative avant, tu vois, pour pouvoir tester ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas.
Ok, ça c'est hyper. En fait, ça arrive pas mal à des boîtes au moment où elles trouvent leur product market fit, d'avoir en fait ces enjeux d'équipe où en fait tu as un sales qui part, et, parce qu'en fait c'est quand même aussi des moments où il y a des gros changements qui doivent se faire. Donc, toi aujourd'hui, gros challenge à ce moment-là. Alors, moi j'aimerais qu'on passe un peu de temps sur le fait de comment tu gères aujourd'hui au quotidien de devoir rentrer du cash et en même temps structurer. C'est le truc le plus difficile et c'est ce qui fait en fait que tu vas réussir ou tu ne vas pas réussir. Il y a des boîtes qui vont justement être très focus sur le fait de rendre du cash au maximum, mais du coup, il n'y a pas de structure et elles n'arrivent pas à faire en fait le temps d'après. Donc, elles n'arrivent plus à, du coup, à scale à un moment donné. Et au contraire, tu as des gens qui vont un peu dire, c'est bon, on l'a trouvé, on s'arrête et là, on va structurer et du coup, n'arrivent plus à engranger du cash, etc. Toi, comment tu as fait pour gérer ce moment-là en fait, très précisément?
Ça a pas été facile au départ. Tu sais, t'arrives un peu en mode, tu te dis, bon, c'est un peu la patate chaude, quoi, tu vois. Genre, tu récupères un truc, bon, ok, on va construire. Déjà, l'idée, c'est de se dire, on va pas paniquer, tu vois, et on va essayer de construire le truc brique par brique. Ça sert à rien de te dire, je vais tout mettre en place en même temps, ça a fonctionné, ça a cartonné, etc. Ça sert à rien. Donc là, tu fermes tous les livres, tu fermes tout et tu te mets en focus. Donc, première étape. Ben, priorité au direct. Donc là, faire des calls, faire rentrer du cash et on y va à fond, tu vois. Deuxième étape, en gros, c'est commencer à monter une équipe. Donc commencer à définir un petit peu les profils dont tu vas avoir besoin pour pouvoir structurer ton équipe. En l'occurrence, on n'avait pas besoin forcément de SDR, de setter, étant donné qu'on tournait déjà avec l'organique. Par contre, il fallait assumer un flux de lead. Donc là, c'était avoir un business stratégiste ou un account executive, un closer, en gros, en plus, qui allait pouvoir nous rejoindre. Là, une fois que tu commences à avoir en fait le départ d'une équipe, ben, tu as trois niveaux de temporalité en fait dans ta gestion. T'as le premier, quand tu essayes, c'est au moins le mois. C'est quelles actions tu vas mettre en place à l'instant T pour faire tes objectifs. C'est comme ça, save, tu te lèves, tu repars à zéro et tu as un mois pour convaincre, en gros. Le deuxième niveau de temporalité, c'est ton plan d'action à un an. C'est-à-dire, OK, à la fin de l'année, quels sont les objectifs, qu'est-ce que je veux faire? Et que tu peux aller découper derrière en trimestre, en ce que tu veux. Mais en gros, tu vas avoir ton plan d'action à un an. Et le troisième niveau de temporalité, ben, c'est ta vision à 5 ans. C'est quel pôle commercial tu veux pouvoir construire à 5 ans. L'idéal, c'est de faire en fait un peu ce truc d'ingénierie inversée. C'est-à-dire, on a tendance de partir de là où on est pour arriver à là où on veut être. Ben, le mieux, c'est que tu pars de là où tu veux être en fait et tu viens découper au fur et à mesure. Donc, d'une vision à 5 ans, tu viens découper 5 objectifs annuels. De ces objectifs annuels, tu viens découper un plan semestriel. De ce plan semestriel, tu viens découper des actions mois par mois. Et en fait, de ces actions mois par mois, ben, tu viens opérationnaliser avec ton équipe. Et résultat, peu importe l'action que tu vas prendre à l'instant T, peu importe l'action que tu vas mettre en place à l'instant T, ben, elle vient nourrir un objectif court terme et en même temps, elle vient nourrir ta vision long terme, étant donné que tu es parti de ta vision long terme pour arriver à cette action-là. Mais ça, c'est hyper important en fait d'avoir cette cohérence-là. Parce que quand tu construis au fur et à mesure ton pôle commercial, ben, l'émotionnel, il va prendre le dessus. Forcément à un moment, parce que tiens, les chiffres vont être un peu en berne. Ok, je vais partir un peu à droite, je vais partir un peu à gauche, je vais retenter un truc, tu vois. Et l'objectif d'un plan, au-delà de la visibilité que ça va te donner, c'est d'éviter un maximum ce niveau d'émotionnel. C'est de garder le truc rationnel. Un peu comme dans, tu vois, dans les films de braquage, dans les trucs comme ça. Ils ont un plan, bizarrement, dès qu'il y en a un qui fait une folie, qui tombe amoureux dans le braquage, qui met de l'émotionnel dans ce plan-là. C'est là où toujours le film il commence à partir en couille, tu vois. Mais c'est exactement ça. Et en fait, le plan, il servait à ça au départ, tu vois. C'est à se dire, c'est comme ça. C'est, il se passe ça, voilà ce qu'il y a, etc., etc.
J'aime trop cette vision. Maintenant, je vais un peu revenir en arrière parce que justement, tu as super bien découpé en fait les différentes steps. La première step, je trouve qu'elle est hyper difficile pour avoir fait et monter aussi également une boîte from scratch et une équipe from scratch, c'est la partie humaine, c'est recrutement, c'est tes premiers sales. Justement, tu parles d'émotionnel. Moi, c'est ce qui m'a donné le plus de yo-yo émotionnel, dans le sens où il y a des moments où tu te trompes. Le moment où tu trouves, en fait, toi, en tant que head of sales ou sales manager, peu importe pour ceux qui. Voilà. Quels sont les profils qu'il te faut? Mais pas juste, en fait, dans leur capacité à faire du chiffre, mais aussi dans la capacité à servir ta vision, en fait, dans 5 ans. Toi, ce moment-là, il a été assez simple. Comment tu as réussi à trouver, en fait, ou est-ce que tu as déjà trouvé ou pas? J'en sais rien. Les profils qu'il te faut, en fait.
Ben, c'est sûr que c'est un enjeu et c'est encore plus un enjeu quand tu es jeune. Pourquoi? Parce que j'avais 24-25 ans du coup à l'époque et tu as des profils donc en fait tu commences à réfléchir. Tu vois, je posais des questions ok, à des gens. Je suis head of sales, tu as 40 ans, qu'est-ce que ça t'évoque? Tu vois, en gros, je vais être ton head of sales, tu as 40 ans, qu'est-ce que ça t'évoque? Tu vois, donc en fait tu commences en plus à te rajouter des questions, tu vois, qui sont personnelles. De légitimité de management et de comment on va t'accorder ou non cette légitimité, parce que la légitimité, en fait, on te l'accorde ou pas déjà. Donc, il y a cette question de légitimité managériale. Derrière, là, sur les compétences, moi, j'avais besoin de personnes qui pouvaient closer. Mais ce n'est pas forcément ce sur quoi j'allais me focus, parce qu'en fait, les compétences qu'il y avait en externe dans d'autres boîtes, ce n'est pas du tout ce que je recherchais. Je m'en foutais parce que j'avais mon process, moi, de closing, et j'avais juste besoin de quelqu'un qui était curieux, qui avait envie d'apprendre, qui avait un peu la niaque. Qui percutait le plus rapidement possible, donc au niveau, tu vois, des soft skills. En fait, quelqu'un qui a. Ouais, je me suis vraiment focus en fait sur les soft skills, là, tu vois, en parlant. Le fit. Et après, il y a aussi ce côté fit avec le culture fit en fait, avec ce qu'il dit. Parce que c'est hyper important. Toi, tu peux avoir ce côté hyper performance dans l'équipe sales qui est important. Mais le problème, c'est que cette personne, elle va s'intégrer déjà à une boîte avant de s'intégrer à l'équipe sales. Donc, si tu as un top performer mais qui ne fit pas du tout en fait avec le global de la boîte, ça ne le fait pas du tout. Et c'est pour ça qu'on a des process de recrutement qui sont assez longs, tu vois, avec 3 étapes où on vient valider à chaque fois différents éléments. Donc, bah, déjà, conseil en gros, si vous voulez mettre en place un recrutement, définissez clairement ce que vous allez rechercher de ce recrutement. C'est-à-dire déjà quel profil. Est-ce que vous voulez un junior, un senior et ainsi de suite. Éliminez. Le plus rapidement, sortez-vous de la tête cette idée de je vais économiser de l'argent, je vais recruter des stagiaires ou des alternants. Oubliez surtout sur la partie sales, qui est une unité commerciale, c'est-à-dire qu'un bon sales, en 2 mois, il commence déjà à se rentabiliser. Même en 1 mois, s'il y a un bon process d'onboarding, il commence à se rentabiliser. Donc ça, tout ce qui est alternant stagiaire, ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné de dire, tiens, tu vas être le premier sales de la boîte, ça va être super, tu vois. Moi, je ne sais pas trop vendre et vas-y, tu vois. Donc ça, clairement. Ensuite, avoir la core team la plus solide dès le départ. Parce que c'est avec ce noyau, en fait, que tu vas construire la suite. Donc, les gens qui vont être responsables. Parce que là, tu n'as pas le temps de passer 15 ans avec une personne à droite, à gauche. Ce n'est pas le moment. Donc, il faut que quelqu'un qui percute, qui apprend vite, qui va être capable d'opérationnaliser le plus rapidement. Parce que sur la partie sales, tu as un coût d'opportunité. Si une personne commence à vendre au bout de 2 semaines ou s'il commence à vendre au bout de 3 mois, ben, c'est pas pareil en fait. Tu vois, c'est de l'argent que tu laisses passer aussi sur la table. Donc, hyper important. Et travailler ton processus d'onboarding le plus tôt possible. C'est-à-dire que toi, en tant que head of sales, quand tu as pris tous ces appels et que tu étais tout seul, ben, en fait, documente ton parcours. Parce que le fait de documenter ce parcours-là, il va peut-être pas te servir à toi directement. Par contre, quand il y a des gens qui vont arriver, ben, ils vont tirer des fruits de toute ta documentation que tu as pu mettre en place. Et ça, c'est souvent un oubli. C'est-à-dire qu'au moment où ça scale, c'est là où on commence à documenter et tout. Mais c'est trop tard et c'est une galère et tu as la tête dans le guidon. Donc ça, ça ne sert à rien de le faire. Travaille un process d'onboarding le plus rapidement possible. Enregistre tes calls, partage les bonnes pratiques. Onboarding, pareil, autonomie sur l'onboarding. Voilà trois entretiens découvertes, trois call closing. Les gens ne sont pas débiles. Tu leur montres au lieu de leur dire ce qu'il ne faut pas faire, tu leur montres ce qu'il faut faire et ils sauront le répliquer. Et souvent, on voit, tu vois, ce truc un peu punitif. Ouais, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Mais montre déjà ce qu'il faut faire.
Ouais. En fait, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. Il y a deux points que je trouve bien. Moi, parce que tu as la problématique. Moi, je sais qu'il y a eu des erreurs de recrutement que j'ai faites parce que j'étais focus que sur la performance. J'avais un sales qui était extraordinaire que j'avais recruté. Qui va te reconnaître. Mais du coup, par contre, zéro fit avec mes associés. Zéro fit. Ouais. Et du coup, il faisait grave de chiffres. Mais par contre, genre, je voyais genre le head of product, le CEO qui se tendait à chaque fois qu'il était dans une salle. Donc ça, en fait, je pense que tu as raison. En fait, on ne pense pas forcément… Parce que quand même, on a cette difficulté en tant que head of sales d'être très pragmatique, de se dire, en fait, moi, mon objectif, c'est d'avoir du chiffre, du cash qui rentre, etc. Mais la question fit est importante avec les autres. Et ce que je trouve aussi également intéressant dans ce que tu dis, c'est cette partie de documenter. Je vois énormément de boîtes que j'accompagne qui sont en mode genre, tout est dans la tête de plein de gens. Tout est dans la tête de plein de gens, mais rien n'est dans le marbre. Et du coup, en fait, bah, ils reculent, ils accumulent de la dette. Vous, en fait, dès le départ, tu as commencé à directement penser à tout documenter. C'est-à-dire toi-même, même quand tu étais, genre quand vous étiez 2 ou 3.
Ouais, parce que ben, de toute manière, en fait, c'est essentiel. Donc déjà, on utilisait des outils qui étaient top pour pouvoir documenter en tout cas toutes les bonnes pratiques. Mojo, par exemple, franchement, je le recommande à 2000%. Vous avez le record de vos calls, vous avez le transcript de vos calls, vous pouvez prendre des parties de bonnes pratiques et ainsi de suite. Donc ça, pour la montée en compétence en fait, mutuelle de l'équipe, c'est juste essentiel. Après, les supports de base, un pitch, une bibliothèque d'objections, peut-être des premières réponses en fait, aux objections, bien qu'ils vont se faire la main. Pitch, en fait, c'est au moins avoir les grandes lignes d'un pitch. Moi, tu as toujours un pitch un peu gravé dans le marbre qui est le pitch de la boîte et après, tu as le pitch du produit. Donc ça, c'est deux choses différentes. Tu vois. Le pitch du produit, moi, je vais plutôt donner des grandes lignes parce qu'en fait, les mots qui vont fonctionner dans ma bouche ne sont pas les mots qui vont fonctionner dans la bouche d'un autre. On va avoir chacun notre style de vente, chacun nos propres verbatims, nos propres analogies, nos métaphores, nos petits tricks, tu vois, qui fonctionnent plus ou moins bien. Et chacun, il va en fait de sa patte. Je n'ai pas envie, moi. Voilà. Le process est important. Le process est là pour donner un cadre, pour standardiser. Par contre, le pitch, la manière d'amener les choses, la manière de poser des questions et ainsi de suite, là, j'aime bien que chacun mette quand même son empreinte en suivant, bien évidemment, tu vois, cette ligne continue derrière. Quoi.
Ok, trop bien. Bah maintenant, en fait, qu'on a vu cette partie plutôt humaine, il y a un autre enjeu, j'imagine, que tu as eu, qui est la partie objectif. Ça, c'est, je pense, le plus dur que j'ai dû faire, en fait, en tout cas, quand j'ai monté une équipe. C'est quand tu es le premier sales ou quand tu es au début, ton objectif, comme tu as dit, c'est faire du go-to-market, de trouver le product market fit, donc tu testes plein de trucs. Donc, tu n'as pas forcément un objectif. Oui, tu as un objectif de chiffre d'affaires, mais bon, qu'il soit fait ou soit pas fait, en gros, ce qu'on te dit, c'est tu trouves, etc. Et à un moment donné, quand tu recrutes des gens, il faut leur donner un objectif, il faut leur donner un cap. Toi, en fait, aujourd'hui, comment vous avez fait ce travail-là est-ce que déjà, vous avez défini des objectifs? Est-ce que vos sales ont des objectifs? Est-ce que c'était plus... il y a des boîtes qui font, pour moi, c'est catastrophique, mais pourquoi pas, genre, fais le plus possible. Est-ce qu'il y avait vraiment des chiffres à faire par mois, par quarter? Comment ça s'est passé?
Ouais. Il y a des chiffres, il y a des objectifs par mois, c'était au mensuel, quelque chose d'assez challengeant. Alors forcément, des chiffres qui sont évolutifs, tu vois. Donc après, ça, c'est à toi de définir, en gros, au bout de combien de temps une personne qui est onboardée doit arriver à 100% de son objectif, tu vois, et à partir de quand tu considères que, OK, c'est bon, elle a les bonnes compétences, en tout cas, pour performer comme il se doit.
C'est ce qu'on appelle le ramp-up. Et du coup, toi, il est de combien de temps, globalement, pour tes sales?
6 mois. Ouais. 6 mois. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, on est sur du high ticket. Donc, tu vois, on est sur des tickets entre 13 et 30 000 euros. Okay. Donc, forcément, il faut,
faut un peu de temps quand même.
En compétences, voilà, à la fois sur la partie commerciale, parce que c'est de la vente quand même complexe, avec des cycles assez courts quand même, hein, mais qui complexes. Et la deuxième chose, c'est la montée en compétences, en fait, sur la partie produit. Aujourd'hui, on a un modèle de croissance où on parle de vente, de marketing, de growth, etc. Donc, tu vas parler tous les jours à des entrepreneurs, à des head of growth, etc. Donc, en fait, tu dois avoir cette expertise entrepreneuriale, même si tu n'as pas, même si tu n'as pas été entrepreneur. Et ça, ben, forcément, ça ne s'apprend pas en 2 minutes, tu vois, ou en deux heures comme ça à passer avec ton head of site. Ça, c'est une compréhension plus globale et ainsi de suite. Donc, et ça, c'est évolutif. C'est-à-dire que même au bout de 6 mois, de toute manière, tu dois continuer à te former par rapport à ça. Mais ouais, je dirais 6 mois. Et après, les objectifs, pareil, sont évolutifs. J'aime bien, moi, mettre des objectifs quand même un peu challengeants. Je ne vais pas arriver en mode, t'as un abouti, t'as pas atteint tes objectifs. Pas du tout, parce que je suis conscient aussi, tu vois, en fonction des différents mois, en fonction des saisonnalités, en fonction des leads, en fonction de ce qui se passe. Donc après, on va regarder pourquoi ça n'a pas été atteint, comment on aurait pu faire mieux et comment on peut avancer sur la suite. Mais j'aime bien mettre des objectifs quand même un peu challengeants, tu vois.
Ok, du coup, en fait, tu as un objectif newbies et séparé à quand? Tout à l'heure, tu disais que tu avais quand même la partie new business. Est-ce que tu as deux équipes différentes? Tout le monde fait tout. Et est-ce que tu as des objectifs différents?
La partie à compte, là, elle arrive, elle se met en place, elle est en train de se mettre en place. Donc, pour le moment, on n'a pas eu cette partie-là. On est vraiment focus, moi, closing. C'est ce qui me fait kiffer, d'ailleurs. Hein. C'est vraiment la partie closing, très à l'américaine. On avait parlé un petit peu avant. Donc, c'est vraiment la partie newbies. Et avant, en fait, la compte management, tu sais, on a des advisors ops, en gros, qui sont des équivalents de chefs de projet. Ouais. Et on avait tenté de mettre des incentives en fait aux chefs de projet, et c'est là où on a fait cette confusion entre satisfaction et rétention, où yes. Tu te dis ok, si les gens sont insatisfaits, ils vont continuer. Or, c'est une grave erreur, et c'est pour ça d'ailleurs que la satisfaction vient du produit, la rétention vient de la partie sales. C'est pour ça que tu as toujours un CSM peut-être qui va s'occuper du produit ou un produit, tu vois, ou n'importe quel SaaS en fait, ben, tu as un produit, c'est très bien, tu es satisfait du produit. Par contre, tu auras toujours un account manager à côté parce que la satisfaction, c'est le passé et le présent. C'est voilà ce qu'on a fait, voilà où on en est aujourd'hui, voilà comment tu es satisfait. Ça prend pas en compte le futur. La rétention, c'est cette projection vers le futur. Voilà ce qu'on a fait, voilà où on en est aujourd'hui, voilà les prochains enjeux que tu vas avoir et voilà comment on va y répondre ensemble. Et ça, c'est un travail beaucoup plus macro. Donc en fait, tu as un côté micro avec ton chef de projet ou ton advisor ops en fait, qui va être là pour gérer la logistique, la satisfaction, et tu as un côté beaucoup plus macro qui va être la rétention et la projection derrière. Et ça, en fait, on a mis un petit peu de temps à le craquer. Une fois qu'on l'a craqué, il n'y a pas de souci, maintenant ça va dérouler bien fort. Les gens étaient hyper satisfaits, mais tu vois,
il y avait du mal en fait
trop
à
trop intense.
Ouais, que ça se transforme.
Trop intense.
En tout cas, t'as
donc
fait
les gens sont là.
Ouais. Ce que je trouve fou, c'est que tu as fait quand même ces apprentissages hyper vite, parce que tu vois, parfois il y a des gens qui perdent un an et demi avant de faire cet apprentissage-là. Mm-hmm. Donc, en tout cas, c'est fou comment vous avez arrivé à être hyper réactif, en tout cas sur vos conclusions et de. parce que c'est une jeune boîte, quoi, tu vois. Donc, il y a pas mal de boîtes qui vont pas mal churner avant de comprendre, en fait, qu'il faut réorganiser vraiment l'équipe, la limite d'avoir trois équipes, quoi. Avoir une équipe Sales Newbies, Account et CSM, quoi.
Après, on a l'avantage de décortiquer des business aussi toute la journée. Donc, forcément, quand ton métier, c'est d'analyser des business toute la journée et d'identifier les facteurs clés de succès, en fait, de chacune des boîtes en fonction de leur taille, de leur croissance et ainsi de suite. Aujourd'hui, on est capable exactement de te dire ce qu'il faut faire pour aller de 0 à 10 millions avec différentes étapes clés. Et en fait, ça, peu importe le secteur d'activité dans lequel tu es, surtout dans le B2B.
Ouais, du coup, c'est un unfair advantage. en tout cas, genre, du coup, je veux juste revenir rapidement sur les objectifs. Aujourd'hui, tu avais dit, ouais, écoute, j'arrive à toujours, je mets des choses challenging, etc. Une des difficultés, par exemple, que tu peux avoir quand tu essaies de scaler une équipe, c'est de faire en sorte que tu mets des objectifs qui soient suffisamment challengeants pour, en fait, pousser la personne à se dire, je vais gagner beaucoup plus d'argent. Ouais. Et en même temps, qu'ils ne soient pas trop challengeants, qu'ils ne vont pas lui mettre une grosse pression parce qu'on sait quand même que c'est un métier qui est stressant. Du coup, toi, comment tu as réussi en fait à quelles décisions vous avez prises? Est-ce que par exemple, déjà, ils ont un variable? Est-ce qu'ils n'ont pas de variable? Voilà.
Ouais, bien sûr. Ils ont un variable. Donc, déjà, la motivation, elle est là. Variable qui est complètement déplafonnée. Donc, okay. si tu veux gagner 100 000 euros par mois chez Skelisa en étant safe, tu peux gagner 100 000 euros par mois chez Skelisa. Il faut juste t'arracher un petit peu, tu vois. Et derrière, c'est simplement mettre les moyens, tu vois. Donc, il y a vraiment zéro limite aussi sur l'investissement en notre équipe. Tu vois, prendre des coachings à droite, à gauche, aller chercher une nouvelle énergie. Ce que je leur dis toujours, tu vois, il y a moi ce que je vous apporte et ainsi de suite, ce que j'essaye de nourrir, tu vois, et d'amener en tout cas au fur et à mesure dans l'équipe sales. Par contre, même si tu avais le meilleur sales du monde en fait qui te coachait dans ton équipe, tu es obligé d'aller chercher une autre énergie aussi ailleurs et voir d'autres choses qui se passent. Et c'est là aussi la force de prendre une boîte qui va t'accompagner et nous-mêmes en accompagnant des gens, et on va en prendre en fait pour nous, tu vois. Parce qu'en fait, on est les premiers à.
Trop bien.
Tu peux pas dire, il faut une cohérence à un moment, tu vois. Donc tu peux pas dire aux gens, mais vas-y, fais-toi accompagner par nous si toi-même, tu n'es pas capable d'investir dans ta croissance, tu vois. C'est comme quelqu'un, tu vois, parfois, j'ai des gens qui ont des produits à 3000 balles, des formations. Ouais, j'ai une formation à 15 000 balles et tout. Je comprends pas, les gens, ils achètent pas et tout, machin. OK, on fait tout le process de vente. Et à la fin, ouais, je sais pas, c'est un peu cher, etc. Je dis, ouais, mais en fait, comment tu veux demander aux gens, tu vois, d'investir 3000 balles ou 15 000 balles en eux si même toi, en fait, t'es pas capable de le faire pour ta propre boîte.
Ouais,
donc en fait, il y a un moment où il faut qu'il y ait un principe de cohérence. Pour en revenir en fait à la partie sales, c'est oui, mettre des gros objectifs, mais ça, c'est une bonne chose. Par contre, derrière, il faut mettre les moyens aussi d'arriver à ces objectifs.
Donc, okay.
Si on envoie, tu vois, moi, je me focus surtout sur l'input. C'est ce qui est fait à l'instant T et non pas l'output. Ça a toujours été, et c'est le conseil franchement en entrepreneuriat numéro un, je pense. C'est arrête de te focus sur l'output parce que tu ne le maîtrises pas, l'output, déjà. En fait, c'est une conséquence de tes inputs. C'est une finalité, mais ça doit certainement pas en fait être un objectif, l'output.
Ok, du coup, toi, en fait…
C'est pour ça que les OKR, ça fonctionne très bien.
Ouais, et du coup, c'est pour ça que toi, en fait, du coup, finalement, tu leur demandes en fait des objectifs très élevés, mais en fait, ils sont accompagnés. Donc, ce stress-là, ils ont les moyens en fait globalement de se dépasser. Ouais. Donc, voilà. En tout cas, c'est très cool. Ouais. Toi, aujourd'hui, du coup, sur cette partie managériale, tu as dit que tu essayais de leur apporter au maximum.
Ouais.
Tu es quand même passé de « je me gère moi » à « je gère des gens ». Quels ont été tes plus gros apprentissages et qu'est-ce que tu as mis en place en fait justement pour t'améliorer? Qu'est-ce que tu mets en place pour t'améliorer encore, hein, j'imagine?
Ouais. Donc là, pour m'améliorer moi, pas comment moi j'ai fait en sorte de les mettre dans les meilleures dispositions. Ok. Je vais me former à droite, à gauche, en continu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis une formation, à chaque fois que j'apprends quelqu'un ou que je prends un mentor ou quoi, je sais déjà qu'à l'étape d'après, la connaissance ou la compétence que j'ai envie d'aller chercher. Donc j'essaye de faire les trucs un peu un par un. Derrière, quelque chose de très rétroactif, hein, tu vois, est très itératif, genre le feu ça brûle, l'eau ça mouille, donc tu testes des trucs, et à un moment tu vois ce qui fonctionne, tu vois ce qui fonctionne pas, tu vois, mais c'est vraiment ça. Et en fait, c'est juste à un moment te mettre un petit peu en recul, de dire, OK, bon, mais là, pourquoi ça a bien fonctionné? Pourquoi là, ça n'a pas fonctionné? Et il y a un exercice que on fait, que je fais personnellement et que les sales font tous les jours. On a ce qu'on appelle un end of the day. Donc, on a un canal Slack avec un end of the day où ils font un peu le recap de la journée. Donc, tu vas avoir une partie quantitative et une partie qualitative. Exemple, entretien découverte booké, entretien découverte fait, closing booké, closing fait, et ainsi de suite. Et à la fin, tu as toujours une question, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, tu vois? Et donc, en fait, ça, c'est une espèce d'autocritique journalière où ça te force à te dire aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer?
Et toi, tu le fais
et
aussi?
Ça, ouais. Moi, je
donc,
le fais
c'est-à-dire
aussi.
Qu'ils ont aussi accès, tes équipes, à toi, tes
Moi, avant, je leur partageais, maintenant, je le garde de mon côté.
D'accord, ok. Trop bien.
Ouais. Maintenant, je le garde de mon côté. Mais je trouve que c'est hyper important, en fait, de faire ce truc-là, de se poser la question aujourd'hui, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Mais ça peut être, parfois, tu vas galérer à trouver, mais en fait, ça va être, je sais pas, ce matin, j'avais un peu la tête dans le cul, j'étais dans un niveau d'énergie un petit peu bas, tu vois, et j'aurais peut-être pu être un peu plus punchy sur ma découverte ou sur mon closing.
Ok.
Ou là, je me suis senti moyennement bon, tu vois, peut-être parce que j'ai pas pris de lead sur tel entretien de vente.
Ok, nickel.
Donc, j'aurais pu m'améliorer. Et en fait, l'idée, c'est que en faisant cet exercice-là et en l'écrivant, en fait, tu te forces à ne plus le faire derrière parce que tu viens le palper, en fait.
Ok, très cool. Mais du coup, genre, sur cette partie, je sais que quand tu montes une boîte, une ouais. équipe sales, etc., ce qui est très, enfin, c'est super dur le management, surtout d'équipe sales. Tu as beaucoup de hauts, de bas, de gérer, toi, la pression du chiffre et de gérer, enfin, de garder ça pour toi parce qu'en fait, il ne faut pas que tu montres que tu es en stress, il faut que tu montres que tu gères toujours bien les choses, que tu sais à quel endroit il faut aller. Et en réalité, pour avoir été à ta place à un moment donné, il y a des moments, surtout au début, tu ne sais pas trop ce qu'il faut faire, mais il faut que tu montres en fait que tu sais ce qu'il faut faire. Enfin, en fait, tu itères en même temps. Toi, aujourd'hui, justement, comment tu gères ça, parfois les yo-yo qui peuvent avoir tes équipes parfois qui peuvent être stressées et gérer toi aussi ce stress-là? Parce que c'est dans les débuts de boîte, dans les 3, 4, 5 premières années où c'est pas évident, quoi.
Ouais, c'est une bonne question parce que effectivement, en fait, c'est le moment où tu sors de la vente, donc où tes actions en fait n'ont plus d'impact direct sur la trésorerie ou sur tes résultats. Il y a une espèce de frustration qui se crée. Ou quand ça ne fonctionne pas, tu as l'impression que ton impact il n'est pas direct, tu vois. Donc il est indirect. Donc tu vas donner des actions à faire à l'équipe, etc. Et tu te dis, putain, mais ça ne prend pas, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? C'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, je ne suis pas trop en fait dans ce truc de cacher. Je contrôle, voilà. Mais quand c'est la merde, c'est la merde, tu vois, et je le dis. Okay. Mais
d'ailleurs, j'ai vu un post de toi, j'ai vu un post de toi, ouais. Où tu disais que le mois de mai avait été un peu compliqué.
Ouais, et en fait, tu t'essayes de comprendre, ok, tu comprends qu'il y a la moitié moins de jours ouvrés, parce qu'il y a des congés, parce qu'il y a des trucs, donc en fait, tu essayes de comprendre ça. Et en même temps, à la fin de mon poste, je mettais, c'est quand le bateau tangue qu'on voit les bons marins. Mais en fait, c'est exactement ça, tu vois. Quand tout va bien, c'est facile de faire le barbeau, tu vois, d'être bien, etc. C'est facile. Mais c'est vraiment, en fait, quand tu es en bas, quand tu es à la cave, quand il y a des moments qui sont un peu plus compliqués, voir comment ça va réagir. Et en fait, moi, je préfère me mettre un peu dans la masse en mode, bon, c'est pas fou ce qui est en train de se passer, mais on va y arriver ensemble. On va y aller un peu comme un capitaine, tu vois, donc qui va avoir ce rôle sur le terrain, tu vois, aussi. C'est-à-dire qu'il est avec l'équipe, il joue, le match, tout le monde le sent, en fait, que c'est compliqué. Ils ont des tableaux de bord. Donc, en fait, même, j'ai pas besoin de leur dire, tu vois. Toi, tu as juste à essayer de comprendre pourquoi. Mais quand si quelqu'un se connecte et qu'il voit, je sais pas, que tu es à 20 000 balles et que c'est la moitié du mois et qu'il n'y a que 20 000 balles de vendus, voilà, chacun après prend ses responsabilités-là, tu vois. Et en fait, ce côté responsabilisation, justement, dans ces moments-là, je pense qu'il est important. Toi, tu dois donner des actions concrètes à faire. Rappelle tes no-shows, rappelle... tous tes fermés perdus, essaye de comprendre pourquoi, intensifie les follow-up, etc., etc. Ça, c'est des outils. Une fois qu'il y a ces outils-là, derrière, la personne est responsable. C'est est-ce que je prends ça, est-ce que je prends ça, est-ce que je prends ça. Et tu vois, si tu te responsabilises individuellement et que tout le monde se responsabilise individuellement derrière, l'effort collectif paye. Ouais, l'effort collectif paye. Et comme on est un peu, enfin, on est très proche en fait, tout ça. on est vraiment, on est une bande de potes, hein, chez Skellisia. Donc,
ouais, c'est l'ADN de la boîte.
Ouais, c'est l'ADN de la boîte, en fait, c'est full transparence. Et il n'y a pas de honte, et c'est normal, et on sait ce que c'est de l'entrepreneuriat, et on le vend à tout le monde. Et qui plus est, quand tu n'es pas que Head of Sales, mais que tu es associé, donc en fait, tu ne gères pas que le pilotage de ton pôle sales, tu gères des problématiques qui sont beaucoup plus macro ouais. et connectent à tous les pôles.
Ouais, en plus, j'ai eu cette casquette-là aussi, donc je sais que c'est, en plus, il faut savoir jongler avec plusieurs choses. Mmh. Mais tu vois, par exemple, ce que tu dis, c'est que c'est pas non plus très évident. Moi, je vois quand même pas mal de head of sales qui, dans les moments où le bateau tangue, justement, vont avoir tendance à compenser et à faire le chiffre. Et du coup, parfois, c'est compliqué. Quand tu scales, le moment le plus difficile, c'est de dire, en fait, OK, là, le bateau est tangue. Je sais qu'en fait, tu vois, genre, de prendre le lead, c'est-à-dire d'aller chercher les gros leads et de closer à la place, ça sera plus simple parce que du coup, je vais compenser, je vais faire du bon chiffre. Ouais. Moi, en tout cas, ça a été mon challenge à un moment donné de me dire, en fait, il faut accepter qu'il y ait des mois, en fait, qui sont foireux et que du coup, je rentre un peu en confrontation avec, du coup, le CEO de la boîte en disant, écoute, en fait, là, ça va pas être bon. Mais en fait, je vais laisser cette situation-là parce qu'il faut que j'apprenne des choses à mon équipe pour que vraiment mon équipe soit responsable, autonome, et que demain, en fait, le chiffre peut se faire sans moi, tu vois. En fait, c'est ça un peu l'objectif d'un head of sales, c'est que le chiffre, parce que c'est facile dans les boîtes où, en fait, ils ont 5 ans, 6 ans, etc. C'est plus difficile dans les boîtes qui commencent à scale, où tu as été, où tu as fait partie, où la part de chiffre d'affaires que tu as fait était énorme au départ, et du coup, de commencer à délaisser cette partie-là.
Ben ouais, et surtout, en fait, cette partie-là, elle est très compliquée, tu vois, quand tu as des équipes au tout début. De 2, 3, 4, en fait, parce qu'il n'y a pas encore de dilution du risque. Ce que j'entends par dilution du risque, c'est que quand tu as 3 personnes, ben, un sales, c'est 33% du chiffre d'affaires. Et en fait, s'il y en a un qui passe au travers, c'est 33% du chiffre d'affaires qui saute. Quand tu as 10 sales, ben, s'il y en a un qui n'est pas là, qui a pris 2 semaines de congé, globalement, il y a cette dilution du risque, en fait, au global. Mmh. Tu vois, ce que tu n'as pas dans les petites équipes. Et du coup, c'est très, très compliqué parce qu'il suffit qu'il y ait un passage à vide ou deux passages à vide, tu vois, au niveau sales. Et ça peut mettre un peu dans la sauce, tu vois. Surtout pour une boîte qui est 100% sales-driven, genre en mode qui n'a pas forcément de récurrence et où tu fais rentrer du gros, gros, gros ticket. Et qu'un décalage de deal ou un décalage de deal par sales, si tu as des tickets à 20 000 balles, ben, c'est 60 000 balles. Donc, en fait… C'est des micro-actions où tu vois, il faut être concentré tout le temps. Tu vois, c'est un peu genre, tu roules à 200 à moto. En gros, ouais. Tu prends un petit gravier, tu prends un petit truc, tu tournes la tête, tu prends une mouche dans le casque. Et ça peut être catastrophique, tu vois, très rapidement. Parce qu'en fait, tu es sur des gros, gros tickets, tu es sur une densité, en fait. Pareil, tu n'as pas un volume de deal où tu as 100, 200, 300, 400, 500 deals. Si tu as un deal qui capote et que de toute manière, ton équipe sales, elle en close 300, ce n'est pas très grave, tu vois. Ouais. C'est OK. Que là, sur du gros ticket, c'est différent. Et en fait, la confiance, tu peux créer, tu connais ce système de cercle vertueux et cercle vicieux dans les sales. Mm. Plus tu closes, plus tu es en confiance, plus tu es en confiance, plus tu closes, et etc., etc. Mais quand ça commence à s'inverser sur une personne, c'est des choses qui sont indétectables, en fait, même à l'œil nu techniquement, parce que lui, il a l'impression qu'il réplique exactement la même chose d'un call à un autre et que ce qu'il faisait, il fait exactement la même chose quand il était à son meilleur mois, alors qu'en fait, l'intention, elle n'est plus la bonne, tu vois. Genre, il y a une énergie de lose, en fait, qui se dégage sur le net parce qu'il le porte, en fait, ce truc-là de « je ne fais pas mes objectifs ».
C'est super dur de sortir de là. C'est super dur de sortir de là. Et en plus, tu te racontes des histoires. En fait, c'est… D'ailleurs, en fait, je pense que quand on parle souvent du top 1% des meilleurs commerciaux, on parle beaucoup de techniques de vente. Je pense que la première technique de vente, c'est le sales qui arrive à stopper le plus rapidement possible le fait de se raconter des histoires quand ça ne marche pas. Tu vois, genre qui arrive tout de suite à se dire, en fait, là, non, je suis vraiment plus bon. Il faut que je revoie en fait mes process. Ça peut t'arriver après 10 ans d'expérience. Hein, pour moi, c'est ça les meilleurs commerciaux, en fait, en vrai.
C'est l'intelligence émotionnelle de manière générale. Tu sais, il y a l'intelligence émotionnelle avec les gens, comprendre les gens, l'empathie, et ainsi de suite. Et l'intelligence émotionnelle dans la gestion de tes propres émotions aussi et dans la manière de te gérer, tu vois. Et c'est là où ça revient, c'est quand le bateau tangue que tu vois les bons marins. Ben, en fait, c'est quand ça tangue qu'il faut être là, tu vois. C'est pas quand tout va bien. Et c'est quand ça tangue qu'il ne faut pas paniquer, tu vois, parce que là, il faut gérer le truc.
Ouais. Bah, du coup, on va bientôt finir le podcast. J'aimerais juste qu'on aborde rapidement, même si en fait, je pense qu'il y aurait des milliers de choses à dire là-dessus. C'est du coup, tu es Head of Sales. ça passe vite. Du coup, c'était très cool comme discussion. En tout cas, elle est très cool. Du coup, genre, là, on a beaucoup parlé du fait que de ta relation avec les sales, mais en fait, quand tu es head of sales, tu as une relation avec les autres membres de la boîte. On a un peu abordé ça, le product, la partie opération, la partie CEO, généralement, qui porte la vision. Et ça, en fait, il faut être suffisamment aligné. Mais la problématique, c'est que toi, tu es en front. Et généralement, quand tu es head of sales, surtout au début, tu es en front, il y a des choses qui se passent bien, des choses, si on est réaliste, qui se passent parfois un peu moins bien. Et du coup, il faut que les autres, en fait, derrière, ils suivent. Parce qu'en fait, tu es en mode scale, tu fais rentrer du cash. Mais si derrière, ça met du temps, généralement, il faut être réaliste, hein, ça met du temps à trouver les bons process derrière. OK, c'est comme ça qu'il faut faire pour faire en fait que la promesse soit bien délivrée. Et toi, en attendant, bah, t'encaisses les chocs, t'encaisses ce qui ne va pas. Qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui? Quelle communication vous mettez en place aujourd'hui pour que ça aille vite? Parce qu'on sait qu'il y a des problèmes, même si beaucoup de gens, c'est normal, hein, sur LinkedIn, on monte la meilleure partie de nous-mêmes, mais on sait qu'il y a des problèmes. Mais comment tu fais en sorte que voilà, ça aille vite, que vous y tirez rapidement et que du coup, toi, tu sois capable de pouvoir faire tes chiffres sans pression et dans les meilleures conditions? Parce que c'est ça, en fait, de ce qui réussit.
Mais c'est vrai que t'es le serveur, tu vois. Je le disais dans un autre podcast, en gros, t'es les 10 derniers mètres. Quand t'es serveur, c'est pareil. En fait, tu peux fracasser littéralement toute une expérience de vente. C'est-à-dire, comme quand t'es serveur, ben, t'as des cuistots qui se sont levés à 8 heures du mat, qui ont fait des prépas, qui ont fait la bouffe, qui ont cuisiné des plats. Le client s'est installé, il a commandé, il a attendu, il a pris un apéritif, etc. Et au moment d'arriver, poser le plat, tu vois, ben tu peux le renverser en fait sur le client. Et en fait, tu viens de casser toute une expérience et toute la chaîne de valeur d'un truc depuis 8 heures du matin alors qu'il est 21 heures. Mais en fait, c'est exactement ça. Et souvent, c'est ce qu'on va pointer du doigt parce que ben, c'est très frontal. C'est toi qui es au devant de la scène. Et on a tendance à se dire, vous n'avez pas fait les chiffres là, les gars. Ben ouais, mais... Au-delà de regarder ces chiffres-là, tu vois, ça peut être intéressant aussi de regarder tout ce qui s'est passé, en fait, dans la chaîne de valeur juste avant. Est-ce qu'il y a eu les bons leads? Est-ce qu'il y a eu ça? Est-ce qu'il y a eu ça? Est-ce qu'il y a eu ça, tu vois? Parce que souvent, on regarde que la résultante, en fait, l'output. Et ça, c'est très, très compliqué parce qu'il y en a qui ne comprennent pas, tu vois. Genre comme si tu étais un magicien et que soit tu es un bon sales et que et tu arrives et c'est bon et ça y est, tu vas pouvoir faire, tu sais, c'est à la planche à billets, quoi. Alors que comment tu expliques que d'un mois à un autre, tu peux se passer de 300 000 euros de chiffre d'affaires à peut-être 50 000 euros de chiffre d'affaires? Genre comme s'il y avait la moitié de l'équipe qui avait perdu d'un coup, d'un mois à un autre, toutes ses compétences et que d'un coup, ils ne savaient plus vendre. Ben non, c'est qu'il y a quelque chose en fait qui est contextuel, qui a bougé aussi au sein de la boîte. Et ça, c'est hyper important.
Ouais, et c'est marrant ce que tu dis parce que c'est quand ça marche, tu vois, quand ça marche sur la partie sales, justement ces débats-là, et je pense que c'est important de les avoir, mais de dire en fait, OK, quand ça fonctionne, il faut féliciter toutes les équipes. Parce que généralement, on a tendance, surtout dans les boîtes sales driven, à féliciter que les sales. Et du coup, tu peux avoir en fait dans les équipes un truc un peu d'injustice en disant « Ouais, mais nous, on a fait le boulot, on a délivré, ce qui est vrai, le produit a fait en sorte, a fait son taf, il y a eu le market, etc. » Donc, on est dans un truc où il faut qu'on gratule tout le monde. D'ailleurs, je vais sortir bientôt un épisode sur le sujet, justement, comment faire avoir une culture sales driven et où le CEO d'Avisio disait « Ouais, c'est injuste de féliciter que les sales. » Et d'un côté, il a raison. Et par contre, à l'inverse, quand les chiffres ne sont pas là, là, pour le coup, il n'y a que le sales qui est responsable. Et du coup, c'est, pour moi, avoir vraiment une culture sales-driven, c'est aussi dire que quand les chiffres ne sont pas là, c'est la responsabilité de tout le monde. Et je trouve ça intéressant dans ce que tu dis.
Mais du coup, c'est 100% d'accord.
Comment tu fais, toi, justement, pour que chez Scalesia, les gens, les autres, ont... enfin, c'est, tout le monde en a conscience, c'est assez naturel ou tu as dû faire un travail pour que les gens
comprennent? Franchement, là, bah, tu vois, le mois de mai, si je prends cet exemple du mois de mai qui a été compliqué, mais je crois qu'en fait, ça a été, en discutant avec d'autres head of sales et tout, ça a été un petit peu pour tout le monde. Et ce mois d'avril, pardon, où il y a eu des jours fériés et ainsi de suite. Et bah, nous, très rapidement, quand même, on a pu discuter avec les autres pôles. On a pu activer aussi et mettre des actions en place. Tu vois, on a une newsletter. On a pu faire un appel à candidature en mode, bah, voilà, en gros, on va envoyer et tout le monde vraiment a été hyper, hyper, hyper soudé. Donc, de toute manière, en tout cas, dans la culture de l'entreprise, il n'y a pas, toi, tu n'es pas un pôle, toi, tu es un autre pôle, toi, tu es un autre pôle et chacun a ses objectifs. Il y a un objectif commun et si tu n'es pas aligné, en fait, avec l'objectif commun de Scalesia, c'est mort. Ça sert à rien de rester là. Et ça, tu le vois très, très rapidement. Donc, en fait, les discussions, elles se font assez naturellement. Effectivement, forcément, on vient toquer à ta porte quand ça coince. Toi, en plus, t'es dans un truc où cette pression qu'on te met, en fait, tu as tendance à la mettre sur l'équipe parce qu'on te la mise, tu vois. Alors que toi, tu es confiant parce que tu vois un peu ce qui se passe et ainsi de suite. C'est là où c'est intéressant aussi d'avoir ce principe de forecasting, tu vois, de prévision, parce que par moment, ben, la réalité d'un mois, en fait, n'est pas forcément relatée dans les chiffres. C'est-à-dire que ben, peut-être qu'il y a 300 000 balles qui vont closer, en fait, dans la dernière quinzaine du mois. Sauf que quand tu es à zéro à la première quinzaine, ben, ouais, on va venir te voir. Mais ça, les autres pôles, en fait, ils ne le voient pas, tu vois, parce qu'ils n'ont pas toutes les informations. Et c'est là où je pense que la communication, elle est importante. À la fois dans un sens, c'est-à-dire que les gens te posent des questions, mais toi aussi tu puisses faire cette remontée d'informations en mode, ne vous inquiétez pas, là on en est là, là on en est là. En fait, c'est apporter cette transparence-là pour ce soit le plus lisible en tout cas sur la partie sales. Et les sales eux-mêmes doivent le faire au head of sales. Parce que toi, tu vois qu'il y a des entretiens découvertes, qu'il y a des call closing, qu'il y a des trucs qui sont en train de se faire, tu vois qu'il y a plein de rendez-vous et il n'y a rien qui tombe. Et pourtant, tu parles à tes sales et ils sont tous en mode, je me sens hyper bien sur les calls, franchement, c'est top en ce moment, je suis trop bien. Ok, mais explique-moi, tu vois. Et là, quand ils vont t'expliquer, ben voilà, là, j'ai juste eu un petit décalage, j'ai des décalages logistiques, il y a des trucs qui vont arriver sur la fin du mois, franchement, top la qualité des leads et ainsi de suite. Et en fait, c'est là où il faut faire attention entre le quantitatif et le qualitatif. Le quantitatif, tu vas aller voir ton chiffre d'affaires. Le qualitatif, il y a tout ce qui se passe derrière, en fait, et tout ce qui est impalpable sur un dashboard. Et ça va être la communication avec tes sales et avec les autres pôles, tu vois. Et après, comment tu prends les actions en place, comment tu mets les actions en place.
Super manière de conclure, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, ton job, c'est aussi d'être un ultra bon communicant pour faire en sorte de rassurer ton équipe sales, mais aussi de rassurer en fait l'ensemble de l'équipe pour aussi absorber ce stress en fait, qui est pas toi, tu n'es pas le stress en fait de l'équipe qui vient te voir en disant hey, « Hé Jules, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi le problème? » Et non plus qui stresse pas. En tout cas, c'est très cool, on pourrait continuer pendant des heures sur plein plein d'autres sujets qui concernent la partie Head of Sales. En tout cas, je te remercie énormément parce que c'était hyper actionnable. Bah, écoute, avec plaisir pour te réinviter prochainement pour aborder d'autres sujets. Donc, merci beaucoup, Jules.
Carrément. Merci à toi, Laetitia. C'était top.
Bah,
Et effectivement, on pourrait en parler pendant 10 piges. Mais il va falloir se laisser.
ok, cool. Et bah écoute, ciao, ciao. À bientôt.
Ciao. Bye.
C'est déjà la fin. J'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Merci encore, Jules, pour cet échange et tes super conseils. Vous pouvez le suivre sur LinkedIn. Je vous mets toutes les informations dans la description du podcast. Si ça t'a plu, abonne-toi à Vendu sur ton appli de podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Et avant de partir, partage cet épisode avec une personne de ton entourage qui serait intéressée par ce sujet. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi à la newsletter Vendu. Tous les 15 jours, je décortique une vente que j'ai conclue ou ratée de A à Z pour te partager mes meilleures stratégies. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.